DW. Le journal. Carole Assignon.
Mardi 19 novembre 2019, il est 17h en temps universel, 18h à Berlin en Allemagne. La capitale allemande accueille l'initiative Compact with Africa. L'objectif, inciter les entreprises allemandes et internationales à investir en Afrique. Mais nous verrons qu'en dépit d'une volonté politique affichée, les investissements allemands sur le continent restent faibles. À suivre également la RDC avec la proposition de budget 2020 présentée par le gouvernement en cours d'examen au Parlement. Il prévoit d'accorder 30% du total au social. Et puis nous ferons un point sur le bras de fer entre manifestants et forces de l'ordre à Hong Kong. Mais avant le développement de tous ces titres, c'est le Flash Info avec Hugo Flotta-Talon.
Bonsoir Carole, bonsoir à toutes et à tous. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, n'est plus poursuivi par la justice suédoise. Annonce faite aujourd'hui par le parquet, faute de preuves pour ouvrir un procès, dit la justice. Julian Assange était accusé de viol par une jeune femme. Le fondateur de Wikileaks, actuellement en prison à Londres, reste en revanche poursuivi aux États-Unis pour espionnage. Les États-Unis, justement, où deux témoins clés ont témoigné devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants aujourd'hui, la commission qui mène l'enquête dans la procédure de destitution engagée contre Donald Trump. Deux hauts conseillers qui ont écouté l'appel du président américain au président ukrainien en direct lorsqu'il le passait. C'est cet appel controversé qui a conduit à la procédure de destitution. Ces deux témoins ont fait part de leur malaise. Un des hauts conseillers a notamment parlé de propos déplacés et inappropriés aujourd'hui.
Pékin accentue la pression sur Hong Kong.
Oui, et ce alors que vous le disiez, la situation est toujours très tendue sur place. Des dizaines de manifestants pro-démocratie sont toujours ce soir retranchés sur le campus de l'université polytechnique. Alors le gouvernement central chinois hausse le ton et se veut même menaçant par la voix du porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la Chine, Geng Shuang.
Les activités criminelles et de sabotage violentes des émeutiers se sont intensifiées à Hong Kong ces derniers jours, menaçant gravement la sécurité des populations locales et de leurs biens, sapant l'état de droit et les ordres sociaux, mettant en cause la prospérité et la stabilité et violant gravement le principe « un pays, deux systèmes ». Mettre fin à la violence et rétablir l'ordre dans la ville est la mission la plus urgente pour Hong Kong.
Et la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, appelle aussi ce soir les manifestants à se rendre. Des manifestants qui exigent toujours le suffrage universel complet pour les élections à Hong Kong, ainsi qu'une enquête indépendante sur les violences policières des dernières semaines. Autre mouvement de contestation en Iran, on apprend cette fin d'après-midi que plus de 100 personnes pourraient avoir été tuées. C'est ce qu'affirme l'ONG Amnesty International. L'ONU a aussi tiré la sonnette d'alarme ce mardi, parlant elle aussi de dizaines de morts possibles. Internet est toujours coupé ce soir sur place. Le mouvement dure depuis samedi et a débuté en protestation contre la hausse du prix de l'essence.
Vous parliez de l'ONU, Hugo. Elle répond aux États-Unis quant aux colonies israéliennes en Palestine.
Réponse à la diplomatie Trump qui considère que ces colonies ne sont pas contraires au droit international. Réponse ferme et sans appel de Rupert Colville, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
En tant que membre du secrétariat de l'ONU, nous continuons de suivre la position de longue date de l'ONU selon laquelle les colonies israéliennes sont en violation du droit international. Un changement dans la position politique d'un État ne modifie pas le droit international existant ni son interprétation par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité.
Rupert Colville, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, après donc les déclarations de la diplomatie Trump qui annonçait hier qu'elle ne considérait plus les colonies israéliennes contraires au droit international. En Afghanistan, les talibans ont libéré deux otages occidentaux dans le cadre d'un échange de prisonniers, libération d'un Américain et d'un Australien ce mardi. Trois prisonniers talibans ont été libérés en échange.
En Allemagne, à présent, un projet d'attentat a été déjoué.
Et c'est en tout cas ce que dit la police après l'arrestation d'un homme de 26 ans, un habitant de Berlin de nationalité syrienne qualifié d'islamiste radical. Il aurait, depuis le début de l'année, accumulé des produits nécessaires à la réalisation d'un engin explosif dans le but de tuer le plus de monde possible, dit la police. Et puis, tout vient à point à qui c'est attendre. La présidence bosnienne a désigné ce mardi un premier ministre. 13 mois après les élections, les trois membres de la présidence collégiale n'avaient pas réussi jusque-là à se mettre d'accord sur un nom. La Bosnie-Herzégovine se situe en bord de la mer Adriatique, en Europe, en face de l'Italie, et compte un peu plus de 3,5 millions d'habitants.
Les nouvelles du monde avec Hugo Flotta-Talon.
DW.
Berlin, la capitale allemande, accueille pour la deuxième fois l'initiative Compact with Africa. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres se retrouvent en ce moment autour de la chancelière Angela Merkel pour renouveler leur engagement à inciter les entreprises allemandes et internationales à investir dans leur pays. Et on en parle avec vous, Rodrigue Desaugé.
Oui, en initiant cette rencontre, l'Allemagne veut relancer l'investissement en Afrique. Compact with Africa, qui démarre ses travaux ce mardi, est donc un défi pour Angela Merkel. La chancelière allemande considère le continent comme une opportunité, mais qui reste jusque-là inexploité. Si certains pays anglophones, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore l'Éthiopie, sont privilégiés dans leurs échanges commerciaux avec Berlin, les investissements allemands restent assez faibles dans les autres pays. Thilo Schoeneux, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert en Côte d'Ivoire, admet que les investissements privés sont faibles.
Il est vrai que les investissements étatiques, notamment à travers la GIZ et la KfW, ont augmenté. Je peux dire pour la Côte d'Ivoire que juste en un an, la GIZ s'est triplée en vue des ressources financières et ressources humaines. Il y a plusieurs programmes qui ont commencé en Côte d'Ivoire sur plusieurs domaines, énergie renouvelable, gouvernance, cacao, développement durable. Ce sont des initiatives très importantes. Par contre, on note que les investissements privés drainent toujours.
Les investissements privés traînent toujours et ces investissements dans les 12 pays concernés par le Compact with Africa n'ont pas augmenté depuis 2017 et ne dépassent pas les 20 milliards enregistrés en 2016, ce qui est déplorable selon Clément Kloutché, membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel et consultant en management pour les entreprises allemandes en Afrique.
On n'a que 800 entreprises allemandes sur ce grand continent, qui sont d'ailleurs localisés pour la plupart en Afrique du Sud et dans une certaine mesure au Nigeria, et puis c'est tout. Les Allemands, vous le savez, ils sont en général très très méticuleux, ils travaillent selon des critères, et lorsque les critères ne sont pas rassemblés, on taxe toujours l'Afrique comme un continent de crise, de corruption, de mauvaise gouvernance et tout. Et donc tous ces critères-là jouent un rôle très important.
L'objectif de cette deuxième rencontre est en tout cas de relancer les relations économiques entre les pays africains et l'Allemagne.
Alors cette rencontre sur l'initiative Compact with Africa a retenu également l'attention de nos abonnés. Bonsoir Fiacre Ndaira Guidje.
Bonsoir Carole Assignon.
Vous êtes avec nous en studio pour en parler. L'Afrique est une chance, une opportunité pour l'investissement et non pas un risque. Ces propos sont de la chancelière Angela Merkel et cela a suscité des réactions.
Et tout à fait, et bon nombre partagent l'avis de la chancelière, mais avec nuance. C'est très important d'investir. Elle nous écrit par exemple, bienvenue d'Okalemi, mais notre abonné congolais estime que la solution la meilleure est de permettre le transfert des technologies vers l'Afrique. Oui, la chancelière a tout à fait raison, s'exclame Maïgado Gao dans le nord du Mali. Mais est-il possible d'investir dans un pays gangréné par la corruption? S'interroge notre abonné. Avant de conclure, ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est la bonne gouvernance.
La bonne gouvernance, c'est une des voies de sortie du marasme économique. C'est ce que suggèrent nos abonnés.
Oui, c'est le cas de Kofi Dolomé au Togo. Lui, comme bon nombre de nos abonnés, estime que l'environnement n'est pas bien assaini. On l'écoute.
Les jeunes Africains, ils ont compris la réalité des choses. Ils veulent investir dans plusieurs choses, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, malgré leur mentalité, malgré leur opportunité qu'ils ont pour aller à l'école. Parce que la situation politique ne leur permet pas d'investir.
Et puis, Obendo Marwa au Cameroun voit plutôt l'aide extérieure comme une entrave au développement du continent. Fred Odouagadougou partage cet avis. Pour un envol économique de l'Afrique, il faut en finir avec l'aide économique. Par principe, qui dit aide dit endettement. Oh, quelle hypocrisie, s'exclame Mamadi Dolomé. Mais comme l'Afrique n'a pas le choix, estime-t-il, il faut simplement réformer tous les secteurs clés du pays. Et il s'agit d'une lutte de longue haleine, nous dit notre abonné togolais. Dans son message, Claudio du Brésil nous dit que la pauvreté n'est pas à démontrer. Les femmes et les enfants en situation de mendicité sont omniprésents. D'où la nécessité donc d'investir davantage sur le continent, conclut notre abonné qui n'a pas précisé sa ville.
Alors Fiacre Ndaira Guidje pour les réactions sur les réseaux sociaux. Fiacre qu'on retrouvera tout à l'heure pour d'autres réactions encore. En bref, à présent, 4 soldats nigérians et un milicien ont été tués dans une embuscade dans le nord-est du Nigeria. L'attaque attribuée à des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a eu lieu près de la ville de Marthe, dans la région du lac Tchad. Marthe située à 130 km de Maïdougouri, la capitale capitale régionale a déjà été attaquée à plusieurs reprises par les djihadistes. Le Burkina Faso, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, est désormais entièrement déconseillé, sauf raison impérative ou formellement déconseillée par le ministère français des Affaires étrangères. La zone rouge, formellement déconseillée, a été étendue, couvrant tout le nord, l'est et les frontières ouest du pays, alors que le reste du Burkina est désormais orange, c'est-à-dire déconseillé, sauf raison impérative. Jusqu'à récemment, le centre du pays et la capitale étaient encore en couleur jaune, c'est-à-dire vigilance renforcée. Pour rappel, les attaques attribuées au groupe djihadiste ont fait près de 700 morts depuis début 2015 et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'ONU. Ce mardi était le deuxième et dernier jour du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Hier, l'urgence de repenser la sécurité collective à travers le renforcement du multilatéralisme, notamment le renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme à l'échelle locale, était au centre des réflexions. Alors que s'achève cette rencontre, on s'intéresse ce soir au Mali, pays touché par des attaques djihadistes qui obligent les populations à fuir. La MINUSMA et le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, soutiennent le village de Kouigouma, dans le nord-ouest du pays, dont une partie des habitants sont revenus de Mauritanie en mai dernier. Plusieurs milliers de personnes qui avaient fui et sont retournées chez elles donc. Une aide dans une zone où la collaboration doit se faire avec les groupes armés en raison de l'absence de l'État. Alors question, comment cela se passe-t-il sur place? Comment revenir dans un village qu'on avait fui? Élément de réponse avec ce reportage sur place de Paul Lorgerie.
Kouigouma renaît doucement de ses cendres. En mai dernier, plus de 2000 personnes originaires de ce village du nord-ouest du Mali reprenaient la route depuis le camp d'Ombéra, en Mauritanie, pour retourner dans leur village natal. Aujourd'hui, les tentes côtoient les maisons en cours de réparation, détruites lors des saisons des pluies successives. Un retour appuyé par le HCR et la MINUSMA. Diallo Mbemba, chef du bureau du HCR à Tombouctou.
Le retour de 2089 rapatriés est un retour massif. C'est pourquoi nous sommes en train de marquer pour que cela soit un signe fort pour ceux-là qui sont dans les camps, pour qu'ils puissent juger, prendre la décision, parce que nous sommes dans la phase de la facilitation du rapatriement.
Pour encourager le reste des habitants de Kouigouma restés en Mauritanie à revenir, le HR et la MINUSMA ont construit une nouvelle école, fait don de tentes et de panneaux solaires, ainsi que foré un puits dans le village. Une façon de faire revenir un semblant de représentation étatique dans la zone, tout en s'inscrivant dans la logique des accords de paix signés en 2015. Ahmedou Agabdallah, chef de village.
Ces personnes qui sont revenues ont fait le choix de suivre l'accord dans une perspective de réconciliation. Aujourd'hui, nous espérons rester sur nos terres et ce, à jamais. Après l'accord, l'opportunité a été donnée à la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, de créer une base dans le village, dans l'optique d'assurer la sécurité et la libre circulation des personnes dans la région.
Accord de paix, retour, le village de Kouigouma est en effet une base du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, d'HCEA, un groupe politico-armé signataire des accords d'Alger en 2015. Une coopération qui ne choque pas pour autant Ricardo Maya, chef de la MINUSMA à Tombouctou, qui considère le chef de village comme un partenaire fiable.
C'est exactement la mise en œuvre de l'accord de paix. La mise en œuvre de l'accord de paix, ça s'est fait avec les groupes signataires. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans un territoire qui est contrôlé par l'un des groupes signataires.
Avec un retour des réfugiés et de la sécurité dans la zone, l'exemple de Kouigouma pourrait bien s'étendre à d'autres villages du Nord et les groupes signataires devenir des partenaires privilégiés d'un retour à l'ordre dans la zone. Paul Lorgerie, de retour de Kouigouma pour la Deutsche Welle.
Et toujours au sujet du Mali, une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes a coûté la vie à 24 soldats maliens hier lundi dans l'est du pays. L'armée malienne a fait cette annonce alors même que la France annonçait de lourdes pertes infligées à ces djihadistes en novembre.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En République démocratique du Congo, la proposition de budget 2020 présentée par le Premier ministre et qui est en cours d'examen au Parlement prévoit d'accorder 30% du total au social, à savoir l'éducation et la santé. Malgré cela, il devrait manquer 800 millions de dollars pour financer la gratuité de l'enseignement. Certains députés s'interrogent sur la capacité du gouvernement à mobiliser les recettes nécessaires. Plus de détails avec notre correspondant Salé Mwanamilongo.
Devant les députés nationaux, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a rappelé que son budget est axé sur le social avec une priorité donnée à l'éducation. Le Premier ministre indique que la gratuité de l'enseignement de base, déjà en cours, représente 11% du budget 2020.
L'accent est mis sur les dépenses sociales, situées à 30,1% du budget général, dont 21,8% pour l'éducation, 5,9% pour la santé et 2,4% pour la promotion sociale.
Jean Bosco Pouna, secrétaire général des écoles conventionnées catholiques, se félicite de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents d'élèves. Il demande toutefois au gouvernement de convoquer les travaux de la commission paritaire pour aplanir les divergences sur le barème salarial des enseignants. Comment le gouvernement va-t-il concilier la pression fiscale avec le pouvoir d'achat de la population? S'interroge le député Henri Thomas Lokondo.
Bon, ils ont arrêté à une pression fiscale de 13,3%. Mais l'élargissement là, de l'assiette fiscale, c'est le peuple, c'est la population qui va en pâtir. Mais comment ils vont maintenant concilier cette pression fiscale avec le pouvoir d'achat de la population? C'est très important. Il faut qu'ils nous disent comment ça va se faire.
Le gouvernement alloue également 38% de son budget aux rémunérations des fonctionnaires et aux fonctionnement des institutions. Le député Mouine Donzangui du mouvement social, parti d'opposition, regrette que ce projet de budget ne donne pas plus d'importance au volet investissement et création d'emplois.
Tous les autres secteurs, notamment les secteurs porteurs de la croissance, comme le secteur des mines, comme la lutte contre la corruption, le secteur agricole, tous ces secteurs n'ont pas réussi une part significative, ce qui fait qu'effectivement, le pays ne va s'occuper que du social. Il ne va pas créer des emplois, il ne va pas non plus créer un climat d'affaires propice au développement du pays.
L'examen du projet du budget 2020 intervient 2 jours après l'examen de la loi portant reddition des comptes du budget 2018, caractérisé par des dépassements budgétaires excessifs. Salé Monami Longo à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
En bref, à présent, l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, tire la sonnette d'alarme concernant la situation en Centrafrique. Dans un communiqué, l'organisation estime que la MINUSCA, la force de maintien de la paix en République centrafricaine, dont le mandat a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 novembre dernier, devrait renforcer la protection des civils et maximiser son rôle en vue d'assurer la justice. Human Rights Watch affirme en effet avoir des informations sur des attaques contre des civils depuis la signature d'un accord de paix en février. Je rappelle que l'accord conclu avec 14 groupes armés qui contrôlent de vastes étendues du pays a conduit à l'intégration des combattants de certains groupes dans la nouvelle armée et à la nomination de leurs dirigeants à des postes gouvernementaux. Nous vous l'annoncions hier, une série de sujets sur les droits des enfants en lien avec les 30 ans de la Convention internationale des droits des enfants qui a été adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Tous les pays du monde, sauf les États-Unis, en sont signataires. Un texte qui détermine les droits de tous les enfants de la planète, droit à la vie, à la protection sanitaire ou encore droit à la liberté d'expression. Nous abordons aujourd'hui donc la situation des droits des enfants en Ukraine et c'est avec Alida Tapsoba.
Halib a 13 ans et grâce à l'éducation dont il bénéficie, l'adolescent qui vit à Kiev, la capitale ukrainienne, est bien conscient de ses droits.
Mon droit le plus important est celui à la vie parce que je lui dois de pouvoir vivre librement. Nous les enfants avons également le droit à l'éducation.
Même si la grande majorité des enfants est scolarisée en Ukraine, le pays doit encore faire des efforts en matière de respect des droits des enfants. Le nombre d'établissements préscolaires étant fréquemment en baisse, seulement 61% des enfants y accèdent. En plus, les infrastructures scolaires sont anciennes et de mauvaise qualité. Les enfants sont également victimes de mauvais traitements, notamment des châtiments corporels. Une pratique pourtant interdite par la loi ukrainienne. Ils sont aussi les premières victimes dans le conflit militaire qui secoue l'est de l'Ukraine. Des milliers d'enfants vivent au contact des combats ou des bombardements. Selon le rapport 2017 de l'UNICEF, la détresse psychologique chez les enfants reste l'un des principaux problèmes à l'est de l'Ukraine.
Alida Tapsoba. J'ajoute qu'en 2019, de nombreuses violations sont encore commises à l'encontre des plus jeunes. Un enfant sur cinq est privé d'éducation. Les inégalités et les discriminations persistent, qu'elles soient liées au genre, à la couleur de la peau, à la religion ou encore à un handicap. Selon l'Organisation internationale du travail, 152 millions d'enfants sont par ailleurs toujours contraints de travailler. La moitié d'entre eux participent à des activités dangereuses lorsqu'ils ne sont pas vendus. Et et réduits à l'esclavage. Nous sommes le 19 novembre et c'est la journée mondiale des toilettes. Le sujet a aussi retenu l'attention de nos abonnés. Et on est toujours avec Fiacre Ndairagdi en studio, surtout que cette journée est célébrée au moment où en Afrique, 300 millions de personnes n'ont pas accès à des installations sanitaires dignes de ce nom, Fiacre.
Oui, Franklin, un journaliste congolais de VBRFM, se demande pourquoi toutes ces personnes n'ont pas d'installation sanitaire digne. Plus de 300 millions, c'est vraiment inimaginable, dit-il. C'est simplement la négligence des pouvoirs publics, réagit pour sa part à Mavi Dolomé. Il est temps que l'Afrique ne soit plus la risée de tout le monde, nous a-t-il dit. Même la propreté dans les lieux d'aisance s'interroge Yero de Dakar, avec une image montrant des conducteurs de bus de transport en commun, quelque part en Afrique, visiblement. Philippe Domès en France nous dit que ses chauffeurs sont en attente dans le lieu d'aisance, les toilettes non encore construites dans ce parking, dit-il. Mais nombre d'intervenants ont surtout mis en cause les pouvoirs publics car, disent-ils, il y va de leur responsabilité, estime-t-il.
Merci Fiacre. On passe à présent au jeu.
Participez à notre jeu concours. Testez vos connaissances sur les émissions de DW Afrique.
Participer au jeu et pour espérer gagner, eh bien, il vous suffit de répondre à la question suivante. Depuis l'an dernier, la Deutsche Welle produit un magazine radio ainsi que des vidéos qui s'adressent spécifiquement aux jeunes africains. La question, quel est ce magazine? Est-ce qu'il s'agit de 77% Pulsation ou à vous la parole? Je répète, est-ce qu'il s'agit du magazine 77% Pulsation ou à vous la parole? La date limite pour participer est fixée au 10 décembre. Il est 17h21 en temps universel, direction à présent Hong Kong, où le bras de fer entre manifestants et forces de l'ordre est loin d'être terminé. Des dizaines de manifestants pro-démocratie retranchés depuis ce week-end à l'Université Polytechnique de Hong Kong continuent de braver les appels des autorités à se rendre et les menaces d'intervention de Pékin. Et on débute ce sujet avec une déclaration d'un responsable de la police de Hong Kong, Jean-Michel Boss.
Laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas courir éternellement. Tout comme la veille, lorsqu'un jeune homme que nous avons identifié a été arrêté, les délinquants qui se sont échappés seront aussi finalement interpellés.
C'est en ces termes que s'exprimait ce matin Kong Wing-Shoing, un des responsables de la police de Hong Kong, à propos des manifestants de l'Université Polytechnique. Une fermeté et une répression contre lesquelles s'insurgent de jeunes manifestants comme Winnie, qui est âgée de 19 ans.
Je suis vraiment en colère parce que la police est censée me protéger. Mais maintenant, ils nous attaquent et n'assurent pas notre sécurité. C'est incroyable que cela se produise à Hong Kong.
Dans la matinée, la police avait annoncé avoir enregistré et arrêté 1100 personnes sur le site et ses environs, précisant qu'environ 600 personnes, dont 400 adultes et 200 mineurs, avaient volontairement quitté le périmètre de l'université. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a promis que les mineurs qui se rendraient ne seraient pas arrêtés. Les majeurs, quant à eux, sont passibles de 10 ans d'emprisonnement pour participation à une émeute, une accusation que réfute Eric Chong, professeur de droit à l'université.
Je suis ici et je n'ai entendu aucun avertissement concernant la participation à une soi-disant émeute. En fait, beaucoup de gens pourraient ne pas en avoir entendu parler, n'est-ce pas? Donc, si la police n'a pas d'autres preuves particulières, je ne pense pas qu'il existe légalement un fondement pour des poursuites.
Alors certes, la police a eu recours à des méthodes jugées brutales pour réprimer les manifestants, allant même jusqu'à les menacer de faire usage de tirs à balles réelles. Mais ces derniers n'ont pas non plus hésité à lancer des cocktails Molotov, des briques ou même à tirer des flèches sur les forces de l'ordre.
Jean-Michel Boss, 18h24 en Allemagne, l'heure de la revue de la presse. Les journaux allemands se penchent ce soir sur une situation qui constitue un vrai problème pour bon nombre d'Allemands. Il s'agit de l'absence de réseau téléphonique au quotidien. Cela peut paraître surprenant, mais c'est une réalité, Hugo Flotatalon.
Il y a des milliers de zones blanches, effectivement, de Funklöcher, comme on dit en allemand et comme le raconte la TAZ ce mardi. Des villages et des petites villes où il est difficile de communiquer par téléphone portable. 5000 endroits où le gouvernement estime que même d'ici 2024, il sera impossible d'avoir assez de réseau pour bien communiquer, explique la télévision publique allemande sur son site. Une télévision qui parlait d'ailleurs en direct
du sujet hier jusqu'à une coupure de réseau. La journaliste en direct à la télé depuis le Brandenburg disparaît, coupée. Dans un des pays les plus industrialisés du monde, le réseau n'est pas adapté, commente la Badischen Neuesten Nachrichten. Dans les comparaisons internationales, le réseau disponible se situe quelque part entre le Sénégal et le Maroc, ajoute le Tagesspiegel. Le gouvernement veut donc investir 1 milliard d'euros pour couvrir les zones blanches, explique la TATS ce mardi. L'idée est aussi de permettre le développement de la 5G, ce réseau hyper rapide qui doit permettre à l'Internet sur mobile encore plus rapidement. Mais cette évolution fait débat. Il y a déjà des pétitions dans tout le pays contre un réseau jugé dangereux, souligne la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le journal plaide pour des campagnes d'information. Mais le sujet n'est donc pas clos, on devrait en reparler. En attendant, parlons poubelles, car la vérité sort des poubelles, titre la Süddeutsche aujourd'hui. Explication, les Allemands ont en 2017 jeté encore plus de poubelles que l'année d'avant, rapporte le quotidien. 18,7 millions de tonnes de papier, de verre et d'autres emballages. Ça représente un peu plus de 226 kilos par personne et par an, et seulement 70% est recyclé. Les entreprises disent d'ailleurs que le neuf coûte moins cher que le recyclé, ajoute une experte dans la TATS. Alors faut-il interdire davantage le plastique, développer le recyclage, le système de transport pour éviter certains emballages? Chacun y va de son idée. En attendant, pour les Allemands, ce n'est pas trop demandé d'aller faire des achats avec des sacs à dos, des paniers ou d'apprendre à utiliser des bocaux de conservation et des boîtes, estime Die Welt. Ça ressemble à de l'éco-ésotérisme, mais c'est un geste citoyen pour préserver notre planète.
Et voilà, c'était la revue de la presse avec Hugo Flotatalon. On passe à présent à l'actualité sportive.
DW. Le sport.
Ce soir à Francfort, l'Allemagne reçoit l'Irlande du Nord pour son dernier match des qualifications à l'Euro 2020. Si la Mannschaft est déjà qualifiée, elle compte bien utiliser cette rencontre pour se perfectionner à l'Ifarat.
Avec 18 points pris en 7 rencontres, 6 victoires et 1 défaite, l'Allemagne est en tête de son groupe C et compte 2 longueurs d'avance sur les Pays-Bas, son principal rival dans la poule. Ce soir, face à l'Irlande du Nord, pas question de se relâcher. Le sélectionneur Joachim Löw souhaite en effet que ses joueurs effectuent une prestation sérieuse face à un adversaire qui peut s'avérer coriace. Notre objectif, remporter cette rencontre face à l'Irlande du Nord et finir devant les Pays-Bas, ce serait une bonne chose. Nous pourrions également utiliser cette rencontre pour donner leur chance à certains joueurs. Dans l'absolu, nous voulons juste remporter le prochain match. La Mannschaft ne peut se permettre un faux pas, d'autant plus que de leur côté, les Pays-Bas affrontent la modeste formation d'Estonie et peuvent encore croire à la première place du groupe. Néanmoins, Joachim Löw sait qu'il a une petite marge de manœuvre et pourra compter sur certains de ses réservistes. Bien évidemment, je vais procéder à quelques changements. Nous sommes dans une situation où je peux dire que certains de mes gars ont besoin de jouer. Nous n'allons pas tout changer. Nous avons besoin de certains leaders sur le terrain pour avoir une stabilité. Mais il y a cependant des joueurs que j'ai envie de voir ce soir. J'ai envie qu'ils me rendent la confiance que j'ai en eux. De toute façon, il reste 2 rencontres avant les convocations finales. Ainsi, Marc-André Ter Stegen prendra la place de Manuel Neuer dans les buts, tandis que sur le côté gauche, le capitaine de Cologne Jonas Hector fera son retour après un an d'absence. Pas de changement a priori au milieu de terrain où l'on retrouvera les fameux leaders que sont Toni Kroos, Joshua Kimmich ou encore İlkay Gündoğan. Allemagne-Irlande du Nord, c'est tout à l'heure à partir de 19h45 en temps universel.
Vous écoutez la DW.
Et à l'écoute de la DW, quelques informations en bref avant de passer au magazine Droits et Libertés avec Sandrine Blanchard. Au Cameroun, la ville de Yaoundé accueille depuis ce mardi 19 novembre et jusqu'au 22 novembre prochain les 48e assises de la presse francophone. Plus de 400 professionnels de la presse des pays francophones et anglo-saxons seront réunis autour du thème journalisme d'émotion, journalisme de l'information. Il s'agit de remettre les professionnels du journalisme au cœur de l'exercice de leur métier. Et toujours au sujet de Cameroun après le Rwanda en 2012. Le pays veut à son tour expérimenter le projet Youth Connect. Il s'agit d'une initiative d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique entame des consultations nationales pour recueillir les perspectives de tous les acteurs œuvrant en faveur de la jeunesse avant le lancement du projet. Un lancement prévu le mois prochain. Et puis, vous pouvez évidemment continuer de réagir aux thèmes que nous développons dans nos journaux, par exemple à cette actualité au Cameroun, en nous adressant vos messages sur Facebook ou encore sur WhatsApp. L'information, bien sûr, continue également sur notre site internet DW Français. Il est 17h30 en temps universel. On retrouve à présent Sandrine Blanchard pour le magazine Droits et Libertés.